Troisième conférence de la journée du 11 juillet 1986. Troisième conférence de la journée du 11 juillet 1986.
Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Sont les remèdes à l'orgueil. Je vais donner des petites pilules homéopathiques contre l'orgueil. D'abord, prendre conscience dans la lumière du Christ.
C'est l'adoration qui nous met dans une attitude de véritable humilité à l'égard de Dieu. C'est plus facile d'être humble en face de Dieu qu'en face de nos frères. Alors commençons par ce qui est plus facile. Commençons par faire des actes d'adoration. Je crois que quelqu'un qui vraiment adore Dieu commence à découvrir progressivement que l'attitude d'humilité met notre cœur dans un état de disponibilité à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Alors, s'habituer. S'habituer à moins critiquer. Nous avons 4 siècles sur le dos de critique. Faut pas l'oublier. Descartes a commencé. Avant Descartes, déjà à l'intérieur des théologiens. De sorte que nous avons une propension
c'est le mystère de Marie.
chanter ça très fort à la Vierge Marie, comprendre que c'est un dévot terrible, personnel et collectif, dans lequel nous sommes, notre monde d'aujourd'hui est très orgueilleux. Il a toujours été. Je crois qu'il l'est particulièrement. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ermite. Le, vous savez, dans l'écriture, Vesoli, c'est dit dans l'Ecclésiaste, malheur à celui qui est seul. Alors, comprenons bien, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est une parole de Dieu. Il faut donc regarder attentivement.
Faut leur répondre dans le...
est avant tout une famille divine, dans un tissu de relations fraternelles. Faut jamais l'oublier. Et que c'est toujours ces relations fraternelles et personnelles qui sont le tissu de l'Église. L'Esprit Saint conduit l'Église et lit les membres du corps mystique dans des liens de charité fraternelle. La hiérarchie vient en second au service du corps mystique. C'est ça qu'il faut répondre. C'est une hiérarchie sacerdotale d'une autorité divine au service du peuple de Dieu, au service du corps mystique. C'est une autorité d'amour. Voyez comment Jésus a exercé l'autorité. Directement du Christ et de son sacerdoce. Et que c'est une hiérarchie de service. Alors vous allez me dire, c'est pas toujours comme ça. C'est évident que c'est très difficile de rester en exerçant l'autorité, toujours des serviteurs. Très facilement, il y a un petit pouvoir qui pousse. À côté. Et puis facilement, on croit ce qu'on fait. Et il y a toujours des flatteurs qui sont là pour vous encenser inutilement. Alors, l'exercice de l'autorité fait que, à la place d'être l'autorité, ça devient un pouvoir. Une distinction qu'il ne faut jamais oublier. Le démon a un grand pouvoir et qui vient de Dieu, qui est permis par Dieu. Et il n'a aucune autorité. Or, on obéit à l'autorité et pas au pouvoir. Quand vous êtes en face d'un tyran, il n'a plus d'autorité. Il n'a plus qu'un pouvoir. Et vous n'allez pas lui obéir. Évidemment que c'est pas commode de discerner le tyran. Quelquefois c'est très facile. On est tous d'accord. Le tyran, c'est celui qui justement n'a plus d'autorité. Parce que on a d'autorité que quand on est au service des autres. Et quand on est totalement au service des autres pour leur bien. Et plus on est serviteur, plus on a d'autorité. Avec un peu de compétence, un peu de connaissance, et on est au service des autres. Donc il s'agit, quand les gens critiquent la hiérarchie de l'Église, il faut leur dire, qu'est-ce que c'est pour vous? Il faut toujours, quand vous êtes en face de quelqu'un qui critique, il faut toujours renverser les interrogations et l'obliger à préciser. Qu'est-ce que c'est pour vous la hiérarchie? Alors il commence à ne plus savoir très bien. Et au bout d'un certain temps, vous dites, mais vous critiquez des choses que vous ne connaissez absolument pas. Ce qui arrive très souvent. Alors on répète, vous savez, c'est le murmure des hippopotames. C'est le murmure. J'ai compris ce que c'était que le murmure quand j'étais en présence d'hippopotames. Parce que c'était de Rwanda, c'était magnifique. Il y avait un lac aux sources du Nil, c'est impressionnant. Il y avait un lac merveilleux. Puis il faisait chaud. Alors on ne voyait rien du tout que le lac. Puis on entendait tout d'un coup un murmure. Et comme tous les murmures, c'est indistinct, on ne sait pas d'où ça vient. Alors on écoute, puis tout d'un coup, on voit. Qui se lève. Parce que le murmure n'est pas intelligent. Il faut toujours dire ça, le murmure est bête. Parce que quand on critique,
très élégant de désamorcer le murmure. C'est que c'est bête. Alors on voit la tête de l'hippopotame qui sort. L'hippopotame, quand il est dans sa cuve, ou dans sa baignoire, il n'est pas méchant. C'est quand il sort. Quand il sort, faut faire attention. C'est le murmure. Alors, quand quelqu'un critique la hiérarchie, quand quelqu'un critique les passages du pape, ça coûte cher. Ça coûte cher, paraît-il, à l'État français. Tant mieux. Cet argent, au moins, sert à quelque chose de grand. Pas que ça coûte très cher, l'État français. On a dit l'autre jour des prix. Ça coûte cher au diocèse, c'est évident. Ça coûte cher. Mais c'est le parfum d'un grand art. Versé aux pieds de Jésus. Le pape fait ça comme vicaire du Christ. C'est impressionnant. Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il se répète dans toutes les villes. Parce que le pape chrétien n'est plus capable que d'une seule chose, c'est de recevoir le pape. Alors c'est une miséricorde extraordinaire. Parce qu'au moins il sanctifie un peu. Il s'agit d'un peu à ce moment. Il se remue un peu. Et on doit les aider à recevoir le pape, et recevoir la bénédiction du pape, à recevoir l'enseignement du pape. Alors, quand il y en a qui critiquent, vous leur demandez un tout petit peu pourquoi. Est-ce qu'ils ont réfléchi? Le peuple d'aujourd'hui a besoin de témoins. Et le pape est un grand témoin. C'est un martyr, faut pas l'oublier. Ça fait Padre Pio, pendant le concile, quand le cardinal de Cracovie invitait le voir, Padre Pio s'était mis à ses pieds. Il faisait pas ça souvent. Il a dit, je reconnais en vous.
Simplicité, et en même temps une telle intelligence. Le petit déjeuner, tu vois.
amis. 5 jours, c'est suffisant pour être philosophique. De s'entendre, de savoir qu'on a eu les mêmes orientations profondes au point de vue philosophique, avec des modalités différentes. Mais c'était très beau, c'était très grand. Alors, quand il était nommé pape, j'ai écrit un petit mot en lui disant ma joie. C'est vrai, c'est impressionnant. Petit certain temps que le petit déjeuner, parce que là on n'est plus à l'hôtel. Alors le petit déjeuner ne peut pas durer plus longtemps que la volonté du secrétaire. Le avertis, vous voyez bien, au bout d'une demi-heure, le secrétaire me regarde d'un mauvais œil. Il me dit, il est temps d'aller travailler. Maria personnelle. Toute œuvre de miséricorde est personnelle. Et la veuve de faute est toujours personnelle. Alors, la damnation éternelle, ça fait partie de la foi. C'est dans l'Écriture. On ne peut pas le nier. Et l'Église l'a réaffirmé.
Conférence, ici je me suis
entendre un Allemand parler parfaitement français. Il est suisse, hein, mais il connaît la langue allemande parfaitement et le français parfaitement. Mais avec une petite note, un petit accent, une petite manière particulière. Ça a un charme particulier. Alors au milieu de la conférence, il y avait en face de lui, à côté juste, l'abbé Journet. Il n'était pas encore le père Journet. Il n'était pas encore cardinal. Moi, je venais d'arriver. J'avais à côté de moi le père de Ménas, Dominica, avec qui j'avais fait mon noviciat, donc, si j'étais à Fribourg, c'est à cause de lui, parce qu'il était seul, alors il voulait avoir quand même quelqu'un avec qui il puisse parler. Alors il m'avait dit à cause de ça, je le savais très bien, c'était pour ça que j'étais à Fribourg. Donc, si la communauté Saint-Jean a pu exister, c'est grâce au père de Ménas, qui m'a fait venir à Fribourg. voyez, par là, on répond que ce n'est pas contraire à l'amour de Dieu. Parce que c'est le damné qui lui-même se met loin de la miséricorde et de l'amour divin. C'est lui qui se ferme à la miséricorde et qui ne veut pas la miséricorde. Il ne veut que la justice et il la reçoit. Celui qui refuse la miséricorde, il lui sera donné la justice. Il ne faut jamais l'oublier, ça. À travers toute l'écriture, on voit ça. Celui qui refuse la miséricorde, il lui sera donné la justice. Puisque s'il refuse la miséricorde, nécessairement, c'est plus que la justice. Et le démon plaide à sa manière la justice. Alors, je termine. Il y a le masochisme encore. On va dire un petit mot là-dessus. Pourriez-vous parler un peu du masochisme en lien avec l'esprit de sacrifice? Bien, je ne vais pas entrer dans le masochisme au point de vue psychologique d'une maladie terrible.
Ceux qui n'en auraient plus besoin n'ont pas osé s'y mettre.
devrais peut-être dû essayer. En bon chien, chercher les gibiers qui se tapissaient, qui se mettaient à l'égard. C'est vrai, chaque fois qu'on... s'aimer et puis mieux comprendre où se situe.